On va maintenant ouvrir la parole de Dieu. J'ai pas plus d'annonces que ça à vous donner. Mais en tout cas, quelle joie d'être ensemble ce matin. Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Vraiment, vous savez, les amis, on a une vision, on a des valeurs dans cette église. Vraiment des choses dans lesquelles on veut être intentionnel. Et s'il y a vraiment quelque chose, le premier A, vous savez, notre vision, c'est les trois A. Je le redis parce qu'il y a pas mal de nouveaux. Adorer Dieu, premièrement. Apprendre à vivre comme Jésus et aimer et servir notre ville et notre région. Et en fait, le premier A, adorer Dieu, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on veut faire voilà, froidement, bêtement, en obéissant comme ça. C'est qu'on veut vraiment l'adorer, mais comme a dit Stéphanie, en esprit, en vérité, et surtout cultiver vraiment sa présence au milieu de nous. C'est pas nous qui le faisons venir, il est toujours là, dans tous les cas. Mais que par la disposition de nos cœurs, nous soyons toujours ouvert à ce qu'il vienne se manifester, parce qu'il veut venir, il veut venir se manifester, il veut que nous passions ces temps où plus rien ne compte et où il n'y a que lui. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on doit être intentionnel, parce que la vie, la société, nos pensées, tout peut essayer de nous faire écarter de ça. Gardons cette valeur vraiment centrale de la présence de Dieu dans nos vies et dans notre communauté. Amen. Et dans nos familles. Amen. Du coup, ce matin, je suis vraiment très heureux de pouvoir ouvrir la Bible avec vous. C'est une période un peu particulière pour moi personnellement, sur plusieurs aspects. Et voilà, j'ai trouvé ça super. Et on dit qu'on est une famille, ben, je voulais vous partager comme en famille tout simplement ce matin. Donc on va ouvrir la Bible et c'est chouette parce qu'on va relire un verset sur lequel Jonathan, il n'est pas là ce matin, mais Jonathan a prêché il y a 2 semaines. Il a prêché déjà sur d'Hébreux 12. Et du coup, on va retourner dans ce verset qui est très connu, hein, d'Hébreux 12, verset 1. On va lire les trois premiers versets. Donc Hébreux, dans le Nouveau Testament, 12. Donc je lis avec vous, « Courir avec endurance », le titre qui a été mis. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, vous savez, une aparté que le chapitre qui précède, il y a toute cette liste de personnages de la Bible qui ont accompli des choses incroyables avec Dieu, les patriarches et plein d'autres encore. Par la foi, il fit ceci, par la foi, il fit cela, etc. Et du coup, ça, c'est la suite. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Waouh, merci Seigneur pour ta parole. On s'arrête ici pour ce passage. Du coup, cette lettre a été écrite probablement donc pour des chrétiens juifs, en fait, des juifs qui ont reconnu Jésus comme Messie à Rome et au 1er siècle. Et du coup, c'est très intéressant. Ben, nous, on peut se dire, ben, peut-être toi dans la salle, tu n'es pas juif, tu n'habites pas à Rome non plus, mais à Montélimar ou pas loin. Et du coup, mais c'est vraiment intéressant, ça m'a parlé, le fait que cette lettre soit écrite à ce type de personnes-là. On n'est pas sûr de l'auteur, c'est peut-être Paul ou Pierre, on avait un débat là-dessus hier soir. C'est très intéressant parce que Rome, c'était pas un endroit anodin à cette époque-là. Hein. Rome, l'Empire romain, Rome cherchait à répandre son empire dans le monde entier. Donc Rome était en train d'essayer de remplir tout le monde entier de sa culture romaine, que partout où tu vas dans le monde, tu te crois à Rome. Et ça, c'est vraiment fou. Et tout à l'heure, j'ai rencontré des gens, des nouveaux qui sont là. Ils me disaient, ah, on sent que tu n'es pas d'ici, il y a un accent. En fait, quand tu es du sud ou du nord ou peu importe, partout où tu vas, il y a cet accent, il y a tout ça. Et on sait que tu n'es pas d'ici. Et c'est comme si tu amenais ta culture dans un nouvel endroit. Et l'Empire romain, c'était ça. Vraiment, il voulait que tout ressemble à Rome. Donc, il faisait des routes. Il y en a encore plein en France ici, pour que tout ressemble à Rome. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, pour les chrétiens qui venaient pour amener une autre culture, la culture du ciel, la culture du royaume de Dieu, et bien forcément, il y avait ce clash entre cette volonté expansionniste d'un royaume de violence, de tous les débordements, on sait, de l'Empire romain, contre un royaume d'amour, un royaume de paix, de justice, de joie. Amen. Et les chrétiens étaient vraiment, du coup, à Rome, ils étaient sous pression, quoi, sous pression, et même, vous le savez, sous énormément de persécutions. Énormément de persécutions à Rome. Les chrétiens étaient vraiment pris pour de la chair à pas grand-chose, quoi. Tuer les jeux romains, tuer même dans des jeux. Puis on les accusait de tous les maux. Vous connaissez toutes ces histoires de Néron, etc. Donc ça m'a vraiment parlé. Voilà un peu le contexte dans lequel ces mots sont écrits. Et du coup, je voulais croiser un peu ce qu'on a lu avec ma vie du moment. Donc, je vais essayer de surtout parler de Jésus plus que de moi, mais quand même, c'est intéressant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Mathieu et je vais avoir 40 ans mercredi. Voilà, et oui. Et du coup, voilà, hier, on était avec des amis, on faisait un peu le bilan. Vous savez qu'on a implanté l'église de Connect Montélimar avec Olivier et Elodie et mon épouse. Et Olivier, on est amis depuis, en fait, on se connaît depuis qu'on est plus ou moins nés. Et on est vraiment amis proches depuis qu'on a une dizaine d'années. Donc ça fait 30 ans qu'on est très, très proches. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés à implanter cette église depuis 8 ans ici à Montélimar. Et c'est merveilleux parce que d'avoir un ami si proche avec qui on a tout vécu en fait depuis 30 ans, ça permet de faire de revenir en arrière et de se rappeler comment c'était il y a 30 ans, tout ce qu'on a vécu depuis, les choses géniales, les périodes aussi plus difficiles parce qu'il y en a eu, et de se dire, et en fin de compte de réaliser la grâce de Dieu incroyable. Et ça, je le dis souvent, mais sachez-le les amis, aucun de nous n'est dans cette pièce de sa propre, grâce à lui-même. Chacun de nous, nous sommes des produits de la grâce de Dieu. Rien que le fait que nous soyons nés, tout simplement, et que nous puissions respirer, c'est la grâce de Dieu. Qui de nous peut dire qu'il mérite les battements de son cœur ? Rien, tout est par grâce, tout est par grâce. Et moi, je peux vous le dire, et certains me connaissent très bien ici dans cette salle, si je suis là devant vous ce matin, c'est un miracle. J'aurais pu être au cimetière, j'aurais pu être parti n'importe où dans des vies complètement différentes, mais par la grâce de Dieu, je suis là devant vous ce matin et je veux vraiment rendre témoignage à mon Seigneur, à mon Sauveur, de tout ce que j'ai pu vivre ces 40 dernières années et puis pour la suite aussi. Amen, c'est pas fini, c'est jeune quand même 40 ans, mais je suis infirmier libéral à mi-temps du coup, et mes patients souvent, là je leur disais que j'allais avoir 40 ans, ils se moquaient de moi, parce que j'avais l'impression de dire ça comme si j'étais très vieux, alors que eux, certains ont 90, 95 ans, donc on riait bien ensemble. Et du coup, voilà, je vais revenir à la Bible et à ce passage que nous venons de lire. Pourquoi ? Parce que à l'échelle d'une vie un peu comme la mienne, je me suis rendu compte de certaines choses très très importantes dans la vie quand on veut avancer, quand on marche avec Dieu. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Avoir une vision pour ta vie ». Avoir une vision pour ta vie. Ça, c'est très très important. Où est-ce qu'on voit ça ? On voit ça premièrement dans les versets qu'on vient de lire. Il est écrit « Parce que donc Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée ». La joie qui lui était réservée. Et Olivier, la semaine dernière, vous a parlé du ciel. Si vous étiez là ce matin, Olivier a parlé du paradis, du ciel, de ce qui se passe dans la suite de la vie éternelle. Il a expliqué comme quoi la vie éternelle avait déjà commencé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans la suite, dans la vie éternelle, une fois que nos corps terrestres meurent, qu'on a nos nouveaux corps, etc. Et Olivier l'a dit, j'ai pas pu écouter son message, mais il m'a vraiment redit ce point et je veux vraiment insister que c'est très important de savoir où on va. C'est très important. En fait, les deux sont importants. Pourquoi ? Parce que quand je sais où je vais, quand je sais quelle est ma destination, quand je sais quel est mon but, le futur, ça me permet de faire les choix aujourd'hui. En fait, de savoir où je vais me permet de mettre des choses en application aujourd'hui pour aller à l'endroit où je vais, où je veux aller. Donc le futur a toujours une implication très concrète dans maintenant, Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est pour ça que c'est très important de savoir où on va, et c'est très important d'avoir une vision pour notre vie. Amen. Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée. Quand il était sur la croix, il avait en vue cette joie qui lui était réservée, de retrouver son Père. Amen. Donc moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 8 ans, donc il y a 32 ans, je me rappelle comme si c'était hier. C'est un peu flou maintenant, mais j'étais dans une chambre chez un oncle et une tante dans la banlieue parisienne, à Palaiseau. Et je me rappelle, c'était un soir dans cette chambre, et mon papa, on discutait ensemble. Je risque d'être un peu émotif ce matin, on s'est couché très tard, levé très tôt, du coup l'émotion monte un peu plus facilement, mais c'est pas grave, c'est beau les émotions, c'est important. Et du coup j'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là. Il m'a dit, voilà, on discutait, il m'a dit, mais est-ce que tu veux suivre Jésus, est-ce que tu veux lui donner vraiment ta vie? Et je me rappelle très bien, comme si c'était aujourd'hui, et je me rappelle déjà du haut de mes 8 ans, ressentir le poids de cette décision, que c'était pas n'importe quoi, et je lui dis oui. Et on a prié ensemble. Et depuis ce jour-là, eh bien, j'appartiens à Jésus. Il m'a saisi, il a saisi mon cœur, il a touché ma vie. Et je lui appartiens. Et ça, c'est la plus belle des choses. Des fois, on se dit, ah, mon témoignage n'est pas si extraordinaire, j'ai grandi dans une famille chrétienne, etc. Mais quel privilège d'avoir eu des parents chrétiens. Mon papa, lui, ne connaissait pas Dieu dans sa jeunesse. Il l'a trouvé dans la rue, avec des chrétiens dans la rue. Et moi, je me dis, mais waouh, quelle joie d'être au bénéfice de cela. Et puis du coup, suite à cette conversion, ben voilà, les années ont passé, une enfance assez heureuse. Et ce qui a été marquant, si on parle de cette idée de vision, c'est que j'ai régulièrement reçu des paroles. J'ai eu la chance d'être toujours dans des mouvements d'église où la place, la part belle était faite vraiment au Saint-Esprit et à Dieu qui nous parlait très concrètement. Par des paroles, par les personnes autour de moi. Et dès mon baptême, voilà, j'ai commencé à recevoir des paroles. Et je me rappelle notamment le jour où j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais 16 ans. J'étais dans une réunion un soir et il a été prophétisé pour moi qu'un jour je serais leader d'église, que j'implanterais des églises, que je serais vraiment, que Dieu allait m'utiliser pour ces choses-là. Et j'étais très jeune, évidemment. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose de concret à l'époque encore, j'étais ado. Mais c'est toujours resté ancré en moi. Et pareil, une autre fois plus tard, quand j'avais la vingtaine, j'ai eu la chance de faire une école de disciples en Afrique du Sud pendant un an. Et là, pareil, Dieu a prophétisé sur moi au travers d'un ami. Il m'a fait lever devant 400 personnes comme ça, sous un chapiteau, en disant, voilà, Dieu t'appelle à vraiment conduire son peuple, à être un leader, à vraiment... et pareil, à l'époque, oui, je pouvais deviner comment ça pouvait se passer, mais comment j'aurais pu me dire que j'allais me retrouver à Montélimar, 15 ans plus tard, à implanter cette église ici. Mais quand je reviens en arrière, je vois que toujours Dieu a parlé, et ses paroles, malgré les remous de ma vie avec Dieu, ses paroles ont toujours été comme des guides, qui m'ont comme guidé dans la destinée que Dieu avait pour moi. Et ça, les amis, vraiment, c'est un encouragement à garder les paroles que Dieu vous donne, à les écrire, à essayer de vraiment garder ça accessible et pour se rappeler. Se rappeler. Souvent, quand on est perdu, c'est aussi parce qu'on a oublié ce que Dieu nous a dit. Mais Dieu nous parle souvent très, très clairement. Et le fait de se rappeler de ça permet d'avancer dans la bonne direction. Amen. Il y a ce verset dans Proverbes 29, assez connu, hein, on dit « faute de vision, le peuple périt ». En français, ça donne plutôt « quand il n'y a plus de vision, quand il n'y a plus de révélation, le peuple se laisse aller » ou « le peuple s'égare, se perd ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment central. Et même nous, dans le travail qu'on fait ici pour cette église, combien de fois, quand on est découragé, en fait, on se rend compte, on en parle souvent avec Olivier, c'est parce qu'on a, c'est comme si on perdait la vision. On perd le sens de pourquoi on fait les choses. Parce que quand on se rappelle de pourquoi on fait les choses, c'est là qu'il y a cet enthousiasme qui revient, c'est là qu'on se rappelle. Mais oui, Dieu nous a envoyés, Dieu nous a demandé de faire ça, Dieu a mis ces gens autour de nous. Regarde tout ce qui se passe. Souvent, on va regarder ce qui ne se passe pas encore. Regarde tout ce qui se passe. Incroyable. Et là, d'un coup, waouh. Et souvent, même dans des temps de prière, tout simplement, quand on est avec Dieu, quand on est près de lui, il nous rappelle encore sa vision. Il nous redonne son amour pour les autres. Et d'un coup, il y a l'enthousiasme qui revient. Donc moi, je t'encourage ce matin, tu peux peut-être même l'écrire sur ton portable ou sur un carnet, comme tu veux, mais je t'encourage à te dire encore ce matin, et ça, c'est vraiment valable pour les jeunes, il y a des plus jeunes parmi nous, des ados, et ça, et je crois qu'Emmanuel vous l'a déjà dit quand elle vous a visité au groupe de jeunes, tout ça, mais vraiment, les jeunes, vous m'écoutez ? C'est très important, là. Moi, on m'a dit des choses comme ça quand j'avais votre âge, mais j'ai un peu zappé, j'ai un peu... Écoutez bien ça et faites pas comme moi, gardez-le bien. Où tu te vois dans 5 ans? Où tu te vois dans 10 ans? Où tu te vois dans 15 ans? Quelle personne tu as envie de devenir? Quelle personne tu aimerais être dans 10 ans? Est-ce que tu aimerais être marié? Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Quel travail tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais faire ci ou ça dans l'église? Est-ce qu'il y a vraiment un ministère qui t'attire plus qu'un autre? Où tu te vois? Projette-toi. Et ça, c'est très important de le faire. Le faire avec Dieu, de prier aussi, de demander à Dieu, qu'est-ce que tu vois pour moi? Et quand tu fais ça, et je t'encourage vraiment à le faire quand tu rentres chez toi et peut-être même à l'écrire, tu marques 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 10, 20, 30, peu importe, et tu l'écris. Et vraiment, tu te laisses la possibilité de rêver avec Dieu. Mais rêver sérieusement, tu vois, de dire, mais oh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? La vie, et les plus âgés vont se moquer de moi encore, mais ces 40 dernières années sont passées tellement vite. J'ai vécu énormément de choses, mais ça passe, c'est vrai. Ma fille rentre au collège, j'arrive pas à croire. À la rentrée, c'est dingue. Ça passe trop, trop vite. Donc, c'est important d'avoir des jalons comme ça. Et comme je vous l'ai dit au début, quand tu sais où tu veux aller, quand tu as la vision de qui tu aimerais être dans 10, 20 ans, eh bien, ah ouais, je veux être ça. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour arriver à ça? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Dans quel domaine je peux m'investir? Dans quel domaine je peux faire des recherches? À quelle personne qui ressemble à ce que j'aimerais devenir, je peux parler pour qu'il soit une source d'inspiration pour moi? Tu vois, tu vas pouvoir trouver des choses très concrètes, des décisions très concrètes que tu vas pouvoir vivre aujourd'hui. Si on parle de mariage, d'enfants, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Déjà, ce que je peux faire, c'est vraiment avoir une sexualité saine. Quand on est ado, on est au moment des hormones qui se développent énormément. Et pétard, notre corps va aller comme ça, machin, comme un bulldog. Vous savez, il y a des fois ces gens qui essayent de promener un énorme chien, sauf qu'ils sont assez chétifs eux-mêmes. Et en fait, tu demandes qui promène qui, quoi. Et les hormones, quand on est jeune, c'est un peu comme ça. Donc, si tu es ado dans cet âge, je te dis, je te le dis, mais tu le sais déjà, en fait, parce que tu le vis. Et c'est pour ça que c'est important de savoir où tu vas aller, qui tu veux devenir. Et là, tu vas dire, mais non, moi, je vais me garder pour le mariage. Je vais me garder ma sexualité, je vais la garder, la protéger, parce que j'ai envie d'avoir une vie de famille équilibrée. J'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie que les blessures que même j'ai reçues des gens qui sont passés avant moi, que vraiment, avec Dieu, tout ça soit guéri pour que je ne ramène pas ça dans mon mariage, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Les jeunes, c'est bon, ça vous parle? Personne ne se sent avec un bulldog au bout d'une laisse, là, en ce moment, ça va? Non. Et surtout, les jeunes, je le dis aussi pour ça, mais ça c'est vrai pour tout le monde aussi, parlez-en à quelqu'un. Dis à quelqu'un, dis à un ami, vraiment un ami chrétien, un ami vraiment qui te veut du bien, dis-lui qu'est-ce que tu aimerais devenir, qui tu aimerais devenir, quels sont tes rêves pour ta vie. Ça, et aussi d'en parler à quelqu'un, ça fait derrière qu'il y ait une redevabilité. Et lui, il va pouvoir, ou elle va pouvoir te dire, mais tu te rappelles, tu m'avais dit ça, tu te rappelles, tu as reçu telle parole prophétique. Ça, c'est génial. Amen. Donc voilà, c'est important d'avoir une vision. J'accélère un peu. Il est écrit, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement. En fait, j'ai oublié toute une partie de ce que je voulais vous dire ce matin dans la période de vie dans laquelle j'étais. Je ne sais pas si c'est d'arriver à 40 ans, mais ça fait des années que je rêve de faire quelque chose. Ça fait des années que je rêve de faire un truc sportif. Ça ne parlera peut-être pas à certaines personnes, mais à d'autres, oui. Un Ironman. Un Ironman. Quelqu'un sait ce que c'est un Ironman? Voilà, mais j'en parle tellement, en fait, aux gens autour de moi que je vous saoule assez avec ça. Non, mais un Ironman, c'est un triathlon, tout simplement, mais longue distance, donc avec 3,8 km de natation, suivi de 180 km à vélo, suivi d'un marathon, la cerise sur le gâteau, pour terminer à pied. Et en fait, oui, je sais, c'est complètement débile, c'est beaucoup trop, c'est oui, vous avez raison. Mais en fait, ça fait des années que je rêve de ça. Et on a une petite négociation avec Emmanuel et on s'est mis d'accord pour que je fasse cet Ironman cette année pour mes 40 ans. Peut-être pour me sentir jeune, je ne sais pas. Mais du coup, c'est... et en fait, mais ça m'apprend énormément. En fait, tout ce... Parce que bon, c'est le 20 août, mais pour arriver en forme au 20 août, ça fait presque un an en fait, que je m'entraîne énormément. Et là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. C'est beaucoup d'entraînement. Et du coup, ça, quand on s'entraîne, ben, on a le temps de réfléchir, on a le temps de prier, on a le temps de voilà. Et ça a des implications vraiment concrètes, même par rapport à ce que je vous partage, d'avoir une vision. J'ai eu cette vision de faire cette épreuve sportive le 20 août. Mais cette vision-là, je l'ai eue en août 2022. Et du coup, et pourtant, c'était loin à l'époque. Mais dès l'époque, j'ai dû commencer à mettre des choses en place pour que le 20 août, je ne sois pas complètement mort dans un fossé au bout d'un certain nombre de kilomètres à vélo. Donc, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à mieux manger. En 2 ans, j'ai perdu 20 kilos. J'ai pas vraiment fait de régime, mais c'est naturel. En fait, quand on fait tout ça, ça part tout seul. Et du coup, mais vous voyez, je vous dis ça pour vous raconter ma vie un peu, mais surtout que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. Mes actions concrètes d'aujourd'hui pour arriver à une vision, à un but dans quelques mois. Ok ? Donc ça c'est vraiment important, la vision. Débarrassons-nous de tout fardeau. Bon ben oui, moi je me suis débarrassé de 20 kilos, je me sens beaucoup mieux sans qu'avec, et du péché qui nous en sert si facilement, parce que c'est vrai que les bonnes choses, elles viennent à nous très facilement, donc on peut s'en débarrasser, c'est bien. Mais vraiment, j'aime dans ce passage comment le péché est décrit, parce que souvent quand on dit oui, parce que je suis pécheur, c'est comme si on donnait une importance au péché, qu'on en faisait une montagne insurmontable. Et peut-être tu as des péchés dans ta vie, tu as des choses que tu fais, tu sais pertinemment que ça n'honore pas Dieu, mais ça te semble insurmontable, tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à t'en débarrasser. Mais justement, ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enserre si facilement ». Ça veut dire que tu peux t'en débarrasser. Ça veut dire que tu peux t'en débarrasser. Et moi, j'ai eu des péchés dans ma vie, vraiment, je vous dis, j'ai eu une période de ma vie, juste avant, surtout juste avant l'Afrique du Sud, quand j'avais 20 ans, où vraiment je me suis éloigné de Dieu, vraiment, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai consommé des choses que j'aurais vraiment pas dû consommer, j'ai eu des relations avec des dames que j'aurais jamais dû avoir. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, et ça je vous le dis souvent, mais cette image de l'élastique, vous savez, c'est comme si du fait de mes blessures, du fait que je me sentais pas réellement aimé de Dieu et puis des gens autour de moi, je cherchais l'amour dans ces bêtises, dans ces choses qui nous détruisent, qui me détruisaient vraiment. Et c'est comme si j'avais cet élastique attaché à la taille. J'ai ça en ce moment pour m'entraîner en natation dans la piscine. J'ai un élastique quand j'ai la flemme d'aller à la piscine. J'attache l'élastique et je nage contre l'élastique, vous savez. C'est toujours l'élastique qui gagne à la fin. Et c'était pareil avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, pour moi, c'était comme un élastique. Et j'essayais de fuir, j'essayais de m'éloigner de Dieu, jusqu'au moment où... tu lâches prise face à... En fait, il ne s'arrête jamais. Son amour sont comme les vagues de la mer, ça ne s'arrête jamais. Et un jour, j'ai craqué, je suis revenu à lui. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, j'ai connu la lourdeur du péché. Je ne dis pas que je ne pêche plus aujourd'hui, bien sûr que oui. J'essaye de grandir dans tous les domaines de ma vie. Mais à cette époque-là, bah, c'était vraiment lourd. Voilà. Ceux qui sont dans la salle et qui m'ont connu à cette époque-là le savent. Mon ami Olivier particulièrement, à qui j'en ai fait particulièrement baver. On aurait pu ne plus être amis, c'est vrai, hein. On aurait pu ne plus être amis. Et j'ai dû vraiment m'humilier un jour où il ne voulait plus me voir, en fait. Je lui en avais fait tellement baver, je l'avais tellement rejeté qu'il ne voulait plus me voir. Et je me rappelle sur un balcon chez Sam et Marion un soir où vraiment il n'y avait plus de connexion entre nous, quoi. Et vraiment, je me suis humilié, je lui ai demandé pardon de l'avoir blessé, pardon de l'avoir rejeté tant de fois pour aller faire la fête, etc. Et il m'a pardonné par la grâce de Dieu, et c'est ça qui fait qu'aussi on est là aujourd'hui ensemble. Et ça, c'est vraiment beau. Merci Seigneur. Tout ça pour vous dire que grâce à Dieu, on peut se débarrasser du péché qui vient à nous si facilement. Amen. Et la grâce, ça veut aussi dire, quand vous regardez l'étymologie, beauté et faveur. Vous savez, quand on dit par exemple une patineuse ou quelqu'un, quand quelqu'un est très doué dans son domaine, on dit qu'il a une certaine grâce. On dirait qu'il fait la chose et que c'est hyper facile. Ça ne vous fait pas ça quand vous voyez les nageurs en ce moment au championnat du monde? Moi, je les vois nager, ils font plus de la moitié de mon temps sur les mêmes distances. Et tu les vois nager, ils flottent, on dirait des poissons, quoi. Pourtant, on n'est pas des poissons, on n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Mais quand tu vois un Olivier avec sa comptabilité, quand tu vois, je sais pas, un Pierre avec les travaux, tu te dis, pétard, c'est facile pour eux, il y a une grâce. Et c'est ça que j'aime, c'est que la grâce de Dieu, nous donne une capacité que par nous-mêmes on ne peut pas avoir. Et par grâce, voilà, ton péché, ton addiction à la pornographie, ton addiction à la cigarette, ton addiction à des substances, ton addiction à la nourriture, je sais, c'est vraiment un combat moi, que j'ai depuis toute ma vie. Tout ça, comme ça, Dieu t'en soulage. Et ça ne se fait pas facilement, c'est souvent un chemin de larmes et de persévérance, mais tu arrives à être délivré, tu arrives à vivre d'un coup une liberté que tu pensais plus possible. Et moi, je veux te le dire, mon frère, ma sœur, moi, j'en suis la preuve vivante, ne te décourage pas. S'il y a vraiment des choses dans ta vie qui sont là depuis des années, ne crois pas, ne sois pas fataliste. Dieu est le Dieu de l'impossible. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est t'abandonner à lui. Et lui veut te délivrer. Et même si ça ne vient pas du premier coup, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, là ? Enfin, ce n'est pas Jésus, mais qu'est-ce qui est écrit dans ce passage ? Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et souvent, comme je l'ai dit, on va se focaliser sur notre péché, focaliser sur ce qui ne va pas, focaliser sur les montagnes dans nos vies, les géants dans nos vies. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et alors que tu gardes les yeux fixés sur Jésus, c'est comme si tout le reste à côté pâlissait. Moi, quand il m'est encore arrivé ces derniers temps d'avoir des crises un peu alimentaires, on va dire, où je me jetais sur de la nourriture, comme cette faiblesse que j'avais encore, eh bien, je choisissais, je disais, Seigneur, ben voilà, il s'est passé ça, mais ce n'est pas grave, je ne veux pas laisser ça dire qui moi je suis. Non, je suis enfant de Dieu, pardon Seigneur, oui, mais j'accepte aussi ton pardon et je veux vraiment croire que c'est une des dernières fois que ça m'est arrivé. Merci Seigneur, je suis tellement heureux du parcours sur lequel Dieu m'a emmené ces dernières années par rapport à ce problème-là en particulier. Donc voilà, ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. Amen. Donc ça, c'était débarrassons-nous de tout fardeau. Parce que, ben voilà, juste un mot, l'ennemi se sert de ces choses-là, se sert de tout ça pour nous casser. Un peu comme Satan fait avec Dieu quand il va dans le désert après son baptême, où il est dit « si tu es le fils de Dieu ». En fait, l'ennemi il va toujours te faire croire des choses complètement fausses. Il va remettre en question ton identité. Il dit à Jésus « si tu es le fils de Dieu ». Mais Jésus sait très bien qu'il est le fils de Dieu. C'est comme à Adam et Ève, le serpent leur dit « mangez ce fruit-là et vous serez comme Dieu ». Mais en fait, ils étaient déjà comme Dieu. La Bible nous dit juste avant qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Donc, ils étaient déjà comme lui. Et du coup, l'ennemi va se servir de tes péchés, de circonstances de ta vie pour essayer de te casser dans ton identité. Alors que, donc voilà, ne l'écoute pas, refuse ses mensonges, embrasse la vérité. Parle-en à un frère pour vraiment refuser ça, avoir des témoins aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ne cède pas, ne lâche pas, reviens au Père. Il va guérir toutes tes blessures. Amen. Tu peux aussi, il y a des gens dans la salle qui me font penser à ça, tu peux aussi t'inscrire à une semaine GPN. C'est le petit 2 minutes pub. Ça t'aidera à avoir un chemin accéléré dans ce domaine-là, dans le domaine de la guérison des blessures de ton cœur. Si tu ne sais pas ce que c'est GPN, eh bien, parle-en à quelqu'un de cette église ou va sur le site gpnfrance.com. Tout sera expliqué. C'est en gros une semaine de retraite où on s'arrête un peu sur toutes ces choses-là, sur le cœur du Père et sur les blessures dans nos cœurs. Amen. Et au final, il ne me reste pas grand-chose à vous dire. Si, gardons les yeux fixés sur Jésus. En fait, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais dans ces 3 versets, il y a un mot qui est répété 3 fois. Et justement, c'est vraiment lié à ce que je vis en ce moment dans mon sport. C'est le mot endurance. Le mot endurance, il y est écrit 3 fois. De ne pas se décourager et surtout d'être endurant. Parce que un des plus grands dangers qui nous guettent, même dans notre société, c'est le découragement. C'est de se décourager. Et l'ennemi, même des fois les gens autour de toi vont essayer de te décourager. Et particulièrement en France, c'est comme si des fois on était un peu plan-plan, un peu off, un peu mollasson, parce qu'on est découragé. Et il y a aussi quelque chose qui nous décourage beaucoup, parce que pareil, encore une fois, dans notre société qui nous fait miroiter beaucoup de choses, qui nous donne envie de beaucoup de choses, en fait souvent on va avoir des attentes. Des attentes qui, même si elles peuvent paraître très spirituelles, sont parfois très individualistes. On va avoir des attentes, donc on se dit, ben moi j'aimerais vivre ça. Et malheureusement, dans la réalité des choses, en fait tu vis ça. Et c'est ça qui amène le découragement, c'est le décalage entre tes attentes et la réalité de ce que tu vis. Et ça c'est très dur, surtout quand c'est à la longue en fait. Ça va vraiment venir te miner le moral. Et c'est pour ça que c'est important de garder les yeux fixés sur Jésus. En fait, de ne pas trop sacraliser, même si c'est des rêves avec Dieu, de ne pas en faire quelque chose d'absolu. En fait, rien ne doit être un absolu dans notre vie à part Dieu lui-même. c'est le seul. Mais vous savez, les amis, même ta femme, même tes enfants, même ton meilleur ami, ta meilleure amie, en fait, rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie. Sinon, on va toujours être déçu. On va toujours être déçu. Parce que ben, le fait est que dans ce monde, le royaume de Dieu n'est pas arrivé encore dans sa plénitude. Et du coup, cet écart-là, on va toujours le vivre. Donc même dans cet écart-là, remercie Seigneur pour ce que tu vis. Laisse un peu ce que tu ne vis pas encore. Et puis aussi, voilà, persévère avec lui. Et la dernière chose, c'est la comparaison aussi que j'ai notée. Une des choses qui nous décourage le plus, c'est de se comparer aux autres. Pareil, on voit les gens, on se dit, pétard, des gens qui ont une grâce, par exemple, dans un certain domaine, et on va se dire, mais moi, pourquoi je ne suis pas comme ça? Mais moi, pourquoi je ne suis pas aussi bien que lui? Pourquoi je ne suis pas aussi beau? Pourquoi je ne suis pas aussi doué dans tel ou tel domaine, etc. Et la comparaison, c'est ce qui tue le plus la joie dans nos vies. Dès que tu te compares, bam, tu as la déprime qui va venir. Laisse tomber, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, il est déjà pris. Il n'y a qu'un seul toi, Stéphanie l'a dit pour notre louange, c'est tellement important. Personne ne peut louer Dieu comme toi tu loues Dieu. Ta louange est absolument unique, personne ne peut vivre la vie que Dieu a prévu que tu vives. Tu es absolument unique, donc arrête de regarder aux autres, regarde à Jésus. Et là tu vas avoir le découragement. Et puis même, il y a un truc que je n'ai pas dit du coup, dans la grâce de Dieu, dans ma vie aussi, et aussi par rapport à cet Ironman. Hier matin, c'était mon dernier entraînement course à pied, le plus long en fait. C'est la plus grosse distance que j'ai dû faire en course à pied, avant de redescendre maintenant petit à petit pour avoir de la forme en fait pour le jour J. Et hier, je devais courir 30 km. Et la semaine d'avant, j'avais couru 27 km. Je fais deux sorties longues de course à pied par... deux sorties course à pied par semaine, une longue, une courte. Et les 27, j'étais tout seul la plupart du temps, c'était un peu long. Je vous dis, j'ai dû faire des allers-retours, j'avais pas envie de porter d'eau, j'allais de fontaine en fontaine le long du Jabron, c'était un peu long. Et hier, j'avais demandé à mon ami Olivier qui voulait me bénir, il m'a dit, je viens avec toi. Donc en fait, il s'est mis sur mon vélo, et bientôt on fera les 30 km ensemble. Et il s'est mis sur mon VTT, il portait l'eau et la nourriture. Et moi, je courais à côté à un rythme facile, hein, parce qu'après 180 km de vélo, je ne serais pas à un rythme incroyable sur le marathon. Et ce qui permettait de parler, du coup, à un rythme facile, tu peux parler, t'es bien. Et en fait, il est venu avec moi et on a tchatché. Pendant 2 heures, on était tous les deux. Ensuite, il y a d'autres amis qui nous ont rejoints pour la dernière heure. Et on a discuté, on a refait toute notre vie un peu, on a parlé. C'était beau, on s'est régalé avec le lever du soleil, pas un brin d'air. J'avais à manger, à boire quand je voulais. C'était extraordinaire. Et vous savez quoi? Il faut qu'on fasse ça plus souvent. Et vous savez quoi? Les 30 km sont passés comme ça. Impressionnant. C'est passé, mais comme une lettre à la poste. Bon, oui, bien sûr, il y a l'entraînement des semaines d'avant. Mais tout ça pour vous dire qu'à une semaine d'écart, une distance similaire, quand tu es avec quelqu'un, tout est plus facile. Et ça, vraiment, c'est une image de l'Église. On n'est pas fait pour vivre notre foi seul. Et vraiment, on est fait pour être ensemble. On est fait pour avancer ensemble. Parce que quand tu avances ensemble, il y a une grâce particulière. Il y a une beauté dans le collectif, il y a une beauté dans l'armée de Dieu, dans la famille de Dieu, dans vraiment tous les frères et sœurs, les enfants de Dieu qu'on est ensemble, qui font que la vie, on peut rentrer dans notre appel, quoi. Parce qu'on n'est pas seul, on vit ça à plusieurs et on peut s'encourager les uns les autres. Amen. Donc pour être endurant, ne sois pas seul. Ne sois pas seul, avance en équipe. Et Dieu a mis des gens autour de toi, c'est sûr, il y en a. Ouvre les yeux. Voilà. Et je passe sur le côté discipline aussi que j'ai dû avoir dans cette préparation et qui est très important. J'ai souvent été roulé à 6 heures du matin l'hiver. Je pensais que j'allais perdre mes doigts de pied tellement ils étaient congelés. J'ai fait des entraînements, c'est vrai, dans des conditions très difficiles. Mais la discipline avec Dieu, c'est pas qu'on se force à faire les choses. C'est encore une fois parce qu'on a la vision. Alors je vais pas du tout comparer ce que j'ai fait à Jésus sur la croix, mais quand même, Jésus n'est pas un masochiste. Il n'a pas enduré l'horreur de la croix juste comme ça. C'est parce qu'il avait en vision la joie qui lui était réservée. Et moi, oui, dans des périodes où j'avais l'impression que je ne progressais pas, que j'étais vraiment nul, je roulais avec j'ai mes deux partenaires de vélo qui ont 65 ans et ils me mettent la misère, quoi. Ils partent dans l'école, je ne peux pas les suivre. C'est un peu dur pour mon amour propre. Mais voilà, quand j'étais comme ça, je m'imaginais la ligne d'arrivée du 20 août, quoi, où tu diras tous ces efforts n'ont pas été pour rien. Et voilà, c'est pour ça que je t'encourage, mon ami, même dans la difficulté, même si tu dois te discipliner, pour lire la Bible, c'est pas évident, mais essaye quand même un peu, même 2 minutes de prier, essaye, toujours essaye. C'est pas la quantité qui compte, hein, c'est la qualité de l'échange avec Dieu. Pour le but, la ligne d'arrivée. Et quand on va arriver au ciel, Dieu nous attendra bon et fidèle serviteur. Et il aura des couronnes pour nous, des couronnes qu'on s'empressera de lui redéposer devant le trône. Mais il aura des couronnes pour nous, il dira bravo mon fils, ma fille. Tombons pas dans la performance les amis. C'est pas parce qu'on fait des choses pour lui qu'il nous aime plus. Mais quelle joie de dire oh là là, j'ai pu marcher avec Dieu, j'ai pu grandir, progresser et je me retrouve avec lui dans cette célébration. Amen. Donc je redis ma phrase du début les amis, c'est très important d'avoir une vision. Il faut que tu aies une vision pour ta vie, une vision avec Jésus pour ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut finir en priant ensemble, les amis? Est-ce qu'on peut... Eh bien, non. Tu vas te lever, mon ami, à ta place ou à ta chaise, si vraiment ça t'a parlé. Je n'ai pas envie qu'on se lève pour le plaisir ou parce que je vous demande de vous lever. Mais si dans ce que je t'ai dit, ça t'a parlé, si tu t'es reconnu dans un aspect ou un autre, que ce soit par rapport au fait d'avoir une vision, peut-être tu manques d'une vision, ou peut-être Dieu t'a donné une vision, mais tu n'es pas sûr à 100%, tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment ça, etc. Ça peut être ça. Peut-être que tu es dans une période où vraiment par rapport à un certain péché, c'est particulièrement dur. Tu peux te lever aussi pour ça. Vraiment, j'ai à cœur qu'on puisse porter les fardeaux les uns des autres, les amis, ce matin. C'est tellement important. Peut-être que ce n'est pas des péchés, mais ça peut être de la solitude, ça peut être des événements de ta vie qui te font croire que la vision que tu as, ça sera impossible, quoi. Tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il se passe ci ou ça, parce qu'il y a telle ou telle circonstance de ta vie. Peut-être que c'est aussi cet écart entre tes attentes et la réalité de ton quotidien. Tu aimerais être délivré de certaines choses, tu aimerais accomplir certaines choses. Et en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que tu galères, c'est dur, tu n'arrives pas à avancer, tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, quoi. Et ça, c'est des mensonges que l'ennemi te souffle. Donc si c'est ton cas, tu peux te lever aussi à ta place. Et vraiment, et les amis, si vous avez l'habitude de prier pour les autres dans cette église, les leaders de Braise, les leaders All Type, vous vous reconnaissez. Et puis même, si ton voisin s'est levé à côté de toi, étends ta main sur lui, pose la main sur son épaule si c'est OK avec lui. Et vraiment qu'on puisse se bénir les uns les autres maintenant. Seigneur Jésus, tu nous connais parfaitement, Seigneur. Seigneur, tu es allé jusqu'au bout sur la croix. Tu as enduré la croix. Tu as enduré, Seigneur, les coups de fouet. Tu as enduré qu'on enfonce une couronne d'épines dans ton crâne, Seigneur. Tu as enduré les crachats. Tu as enduré les moqueries. Tu as enduré l'injustice totale, Seigneur Jésus, de ce procès du Sanhédrin.